Le Mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag au carré. Nous sommes ravis de vous retrouver. Pour animer cette émission, je suis avec Audrey Jourdain. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème bien précis, celui de la logistique, une classe d'actifs immobiliers qui multiplie les records. Une année exceptionnelle pour le marché de la logistique en 2021. On y reviendra justement. Nouvelle Eldorado, on a d'ailleurs pu constater que l'immobilier logistique qui était déjà en croissance avant la crise n'a pas du tout souffert de ce contexte particulier. Au contraire, le secteur de la logistique a su prouver son adaptabilité à toute épreuve et démontrer son rôle essentiel et déterminant pour l'ensemble des acteurs économiques. Deux invités avec nous. Alors, la première est en plateau, Catherine Dargent, bonjour.
Bonjour.
Fondatrice et PDG du groupe Daxter. Vous allez justement nous présenter le groupe dans quelques instants. Et en distanciel, Christophe Chauvard, bonjour.
Bonjour à vous.
Directeur général de P3 Logistique Parks France. Pareil, dans quelques instants, vous allez nous présenter l'entreprise. On commence avant tout avec votre édito, Audrey.
Le Mag au carré, l'édito d'Audrey.
Eh bien, la classe d'actifs industriels et logistiques a vécu son apogée en 2021 avec deux records sur le marché européen, l'un à l'investissement et l'autre sur le marché locatif. Alors, débutons par l'investissement. Jamais autant de capitaux n'avaient été injectés sur le marché européen qu'en 2021. 65 milliards d'euros, c'est plus de 60% par rapport à 2019, donc en fait plus de 60% par rapport au monde d'avant Covid-19, et c'est aussi plus de 110% par rapport à la moyenne décennale. Alors malheureusement, ce n'est pas la France qui domine le marché européen, mais le Royaume-Uni avec 20 milliards d'euros. La France n'est pas non plus numéro 2, c'est l'Allemagne, mais la France est numéro 3 avec 6,7 milliards d'euros. Poursuivons ce point marché avec le record du marché européen de la location. 29 millions de mètres carrés ont été commercialisés en 2021, c'est plus de 30% sur un an. Autre chiffre à retenir, les valeurs locatives prime ont progressé en moyenne de 3,4% sur un an et le taux de vacance n'avait jamais été aussi bas qu'en 2021, 2,7%. Terminons avec les excellentes perspectives 2022. La tendance haussière s'est poursuivie au premier trimestre. 1,2 milliard d'euros ont été investis sur le marché français de l'immobilier industriel. C'est quand même plus de 16% par rapport au premier trimestre 2021. Et la demande placée s'est approchée du seuil des 800 000 m² pour les entrepôts de plus de 10 000 m². C'est aussi plus de 30% sur un an. Alors, quelques questions en suspens. Les loyers vont-ils continuer de croître? Si oui, les utilisateurs vont-ils réussir à tenir de si hauts taux d'effort? Et les investisseurs vont-ils être freinés par la compression des taux de rendement?
Eh bien justement, ces questions, nous allons les poser à nos invités. Nous allons en discuter ensemble. C'est le moment.
Les invités du carré.
Alors, on va commencer, normalement c'est honneur aux dames, mais on va commencer avec vous, Christophe Chauvard. Alors, déjà, avant toute chose, pouvez-vous déjà nous présenter P3 Logistique Parks France?
Oui, merci. Alors, P3 Logistique Parks est un investisseur, développeur d'immobilier logistique et asset manager, donc gestionnaire de ces entrepôts. Dans 12 pays européens, nous sommes détenus à 100% par l'État souverain de Singapour, donc qui nous apporte une certaine puissance financière. Nous sommes un investisseur long terme. Comme je l'ai dit, nous développons nos propres entrepôts. Notre patrimoine s'élève à près de 7 millions de mètres carrés en Europe et nous comptons à peu près de 450 clients et j'ai l'honneur de diriger l'équipe France depuis 3 ans.
D'accord. Alors justement, peut-on encore aujourd'hui réaliser de la création de valeur sur l'immobilier logistique?
Absolument. Par contre, les gisements doivent être plus fins. Il faut être plus habile pour pouvoir les trouver. On a plusieurs facteurs que vous avez rappelés. Déjà, un marché qui est on va dire, à la hausse, voire en ébullition, des chiffres records que vous avez évoqués. En termes de, on n'a jamais eu un taux de vacances aussi faible, autant de demandes de locataires, avec une conjoncture qui était favorable pendant la période de Covid, puisque les besoins logistiques se sont exprimés encore plus. Et puis, un cycle d'investissement et donc le marché de capitaux qui reste très, très fort, puisque les investisseurs se sont reportés sur cette classe d'actifs, la logistique, au détriment d'autres classes d'actifs. On voit bien qu'aujourd'hui, le bureau, le commerce souffrent un peu plus, le logement et la logistique sont assez prisés. Et puis, vous avez un autre phénomène qui s'accompagne, c'est la rareté, pour la France en tout cas, du foncier, qui semble marquer en tout cas un arrêt en volume des futurs projets de développement, avec un impact direct sur les loyers. Donc les locataires aujourd'hui, on a des transactions enregistrées avec des loyers qu'on n'avait jamais vus. Et puis, comme vous l'avez rappelé, le conflit international avec l'Ukraine amène aussi des coûts de construction plus importants. Donc on est dans une phase de transition pleine, sur lequel la demande est toujours importante en termes de produits logistiques. Et on rappelle que c'est surtout le commerce et l'e-commerce, qui ont changé la donne. Donc on est sur quand même des fondamentaux importants. Néanmoins, on reste quand même prudent parce qu'on voit poindre du point de vue macroéconomique un principe de trou d'air arrivé. On parle peut-être de récession si on est un peu pessimiste. Donc il faut être quand même vigilant. Il ne faut pas oublier que les fondamentaux sur le marché français, c'est la consommation. Et on anticipe quand même qu'il va y avoir quelques problèmes. Néanmoins, la demande d'e-commerce est tellement importante qu'on peut parier sur le fait que le marché va rester quand même très attractif. Et les chiffres que vous avez évoqués sur le premier trimestre, malgré ce problème international avec l'Ukraine, démontrent que la confiance est toujours là.
Oui, parce que les Français se sont quand même accoutumés à l'e-commerce. Ça a énormément été augmenté par la crise, le confinement. On était chez soi, on se faisait livrer, mais il y a eu quand même une accoutumance, ce qui est bon pour le secteur du coup de la logistique.
Absolument. Donc des changements de consommation qui se sont maintenant, on va dire, installés. Il faut comprendre aussi que certains opérateurs, commerçants, retailers n'avaient pas forcément accéléré cette transformation digitale. Il faut rappeler qu'en France, on est quand même en retard par rapport à d'autres pays européens, même si on se positionne plutôt bien en termes d'omnicanalité. Et puis, c'est un marché de consommation, la France, donc c'est directement lié au pouvoir d'achat. Et on voit bien qu'il y a un transfert du commerce physique vers du commerce online. Et la conséquence, c'est qu'il faut plus de surface logistique pour pouvoir développer tout ça, plus proche des cœurs de ville. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une sorte de superposition de cartes entre les fondamentaux du commerce qui sont liés aux zones de chalandise et donc au bassin de consommation, avec le besoin logistique, avec des emplacements maintenant qui sont plus sur la traditionnelle dorsale Lille-Paris-Lyon-Marseille pour les entrepôts, mais qui vont maintenant en province.
Bah justement, on va en parler dans quelques instants. Ouais.
L'e-commerce pousse ce secteur d'activité actuellement. Dans tous les sens.
Tout à l'heure, Audrey parlait des taux de rendement. On observe une compression, on voit qu'il baisse un petit peu. Est-ce que ça vous freine, cette compression des taux de rendement?
Les taux de rendement aujourd'hui reflètent l'appétit des investisseurs. Donc, il est vrai qu'il y a un effet ciseau qui est en train de se positionner. Je pense qu'on était sur un point haut en termes de valeur métrique au mois de janvier. À peu près au moment du MIPI, mais le début de la guerre en Ukraine, on a vu quelques opérations se rediscuter en termes de valeur. Et on est vraiment au cœur de cette séquence, puisque beaucoup d'opérations se rediscutent en termes de valeur métrique. Et puis derrière, il y a le financement qui, certains opérateurs qui se financent voient, de par la remontée des taux ou l'anticipation de la remontée des taux, un repricing s'opérer. Donc on voit bien qu'on a touché une valeur très haute des immeubles, dont l'apogée se situait fin d'année, début janvier. Et maintenant, on a quelques questionnements sur ces taux de capitalisation que l'on prévoit aujourd'hui de manière stable, mais avec un potentiel réajustement à la hausse dans les prochaines semaines, si ce n'est pas déjà le cas pour certaines opérations. Voilà.
La logistique urbaine fait parler d'elle aussi. Est-ce que c'est une classe d'actifs qui est étudiée par P3 Logistique Park?
Oui, mais dans notre plan de croissance, notamment pour la France, nous privilégions d'abord d'obtenir une taille critique, un peu plus importante. Donc, on privilégie d'emblée des entrepôts qui permettent une massification et donc des dépôts de logistique plus dans le modèle historique de P3. Néanmoins, à l'échelle du groupe, bien évidemment, on travaille ce produit d'urban logistique tout simplement avec des projets qui sont situés dans les agglomérations en Allemagne, notamment avec des grands acteurs du e-commerce.
Et alors, dernière question, quelle est votre stratégie d'investissement global actuelle?
Alors, aujourd'hui, on cherche à grossir. Notre actionnaire, qui est un fonds souverain, a réitéré sa confiance en l'outil de P3 Logistique Park pour permettre à des investissements importants de se réaliser. Donc, on cherche à la fois des gros portefeuilles pan-européens pour faire grossir substantiellement l'entreprise, mais nous cherchons aussi des deals plus granulaires, donc des acquisitions d'immeubles au-delà de 20 millions d'euros. Et en parallèle, nous avons toujours une dynamique très active sur le développement qui prend plus de temps, probablement en France que dans d'autres pays européens, mais qui sont aussi beaucoup plus créateurs de valeur, puisque vous avez commencé l'introduction par « peut-on créer de la valeur ?». On peut toujours créer de la valeur par le développement et la promotion immobilière, ça prend plus de temps. Et c'est des problèmes d'allocation de capitaux, donc on a besoin de panacher des investissements directs. On cherche aussi des VFA auprès de promoteurs pour accélérer le cycle de production. Et on est sur tous ces sujets-là. Donc, on recherche à la fois des grands portefeuilles, des actifs unitaires, et on est capable de faire le travail d'asset management sur des immeubles qui sont déjà développés.
Voilà. Des VFA en blanc aussi?
Absolument. Absolument.
Merci beaucoup, Christophe Jauvard. Jauvard, on va passer à vous, Catherine Dargent, alors fondatrice et PDG du groupe Daxter. Pouvez-vous déjà nous présenter ce groupe?
Alors, bonjour, bonjour à tous et merci de me recevoir. Daxter est un groupe de conseil stratégique en immobilier sur toutes les typologies d'actifs, avec un volet évaluation. Qui appuie beaucoup les autres activités, un volet property et asset management et un volet accompagnement à la cession et au développement et à l'investissement. Voilà, donc on offre toute la chaîne de valeur et on a une clientèle qui va des particuliers aux personnes publiques et aux utilisateurs. Donc on a un panel très large de clientèle.
Du coup, vous avez un point de vue global. Comment se porte le marché français locatif de l'immobilier logistique en ce moment?
Alors, Audrey l'a dit, hein, c'est une année absolument exceptionnelle, sans surprise. La demande explose. Alors, Christophe a parlé des problématiques de e-commerce qui ont obligé les logisticiens à modifier complètement leur façon de fonctionner et l'omnicanalité. Mais il y a aussi une plus grande tendance à faire des stocks. On a vécu quand même depuis 2 ans sur des grandes ruptures de stocks et des problématiques de matières premières qui handicapent beaucoup les entreprises. Et donc, on observe quand même une modification de changement des locataires et donc des nouveaux besoins aussi qui vont avec ça. Les valeurs ont déjà augmenté et c'est pas fini, Christophe l'évoquait. Ce n'est bien sûr pas fini. On trouve surtout des valeurs qu'on n'a jamais observées jusqu'à présent, mais aussi parce que la typologie de produits qui est sur le marché s'élargit, en fait. On va de l'entrepôt XXL de 300 000 m² à l'entrepôt XXS de quelques mètres carrés.
Oui, c'est assez vaste.
Voilà, c'est très vaste. Mmh. Du coup, la fourchette des valeurs est extrêmement vaste. Et effectivement, il y a des loyers qu'on n'a jamais vus, mais aussi des typologies de biens qui sont nouveaux. Et évidemment, on ne peut pas parler des mêmes loyers si on est sur des secteurs logistiques traditionnels ou si on est aux portes des métropoles. C'est évidemment une façon différente de raisonner.
Et alors, l'évolution justement des valeurs vénales, à votre avis, est-ce qu'elles vont continuer d'augmenter?
Alors, la logistique était franchement le parent pauvre de l'investissement il y a quelques années, est un peu maintenant le produit phare. Il y a beaucoup de nouveaux investisseurs qui rentrent sur le marché. Il y a énormément de créativité dans ce domaine. Les besoins sont énormes. Donc ça, de toute façon, ça va perdurer. On a donc avec l'élargissement du marché, il y a le besoin de nouveaux produits, des nouveaux modes d'investissement et de nouvelles créations. Il y a des locataires qui en demandent toujours plus, et il y a une restriction aussi mécanique de l'offre par le foncier. Qui crée une surdemande en fait générale sur le marché, tant des investisseurs que des locataires, voilà. Mais il faut, aujourd'hui on est quand même en taux de rendement prime à 3%, c'est quand même du jamais vu. Il y a encore assez peu d'années, on était à 10 oui. plus hein. Oui. donc on a changé complètement de paradigme. Après il faut rester aussi cartésien dans l'approche. C'est-à-dire que là il faut quand même pas ignorer qu'il y a des choses qui se profilent qui vont impacter ce marché forcément. Dans quel sens, je ne sais pas, mais en restant très terre à terre, les taux remontent, ça c'est sûr, on ne sait pas jusqu'où ils vont remonter, mais voilà, mécaniquement, quand les taux montent, les valeurs descendent. Bon, là, les loyers remontent, de combien peuvent-ils monter pour être supportés par les locataires, c'est quand même une vraie question. Donc va se poser la question de la consommation et de l'économie en général. Qui, selon sa santé...
Il y a l'inflation, du coup, on ne sait pas ce que ça va donner.
Va également aider les logisticiens indirectement ou pas. Ça, on ne sait pas. Et puis, l'explosion des coûts de construction, on parle quand même de 30% en quelques mois, c'est colossal. Est-ce que ça va durer ou pas? J'en sais rien. Il n'y a pas seulement les coûts de construction, il y a les délais de construction.
Oui, qui prennent du temps.
Qui prennent du temps. Donc, qui dit explosion des coûts de construction, dit prix de revient des immeubles plus importants et bien donc sûr. Nécessité de faire pousser les loyers pour pouvoir absorber ces coûts.
Oui, c'est un cercle vicieux au final.
C'est un cercle vicieux. Et tout n'est pas absorbable au bout d'un moment. Donc tout va dépendre de l'état général de l'économie en fait.
Voilà. On reviendra justement sur les problématiques juste après. Tout à l'heure, Christophe parlait des territoires en France, des villes. On parle de pénurie dans certaines régions qui commencent à se faire sentir. Quels territoires français sont particulièrement porteurs justement ?
J'ai envie de dire que beaucoup du territoire français devient porteur, ce qui n'était pas du tout le cas. Historiquement, la fameuse dorsale, Lille, Paris,
Lyon,
Marseille s'étale énormément, fabrique des arrière-postes. Mais ça, c'est aussi l'omnicanalité, la nécessité pour les logisticiens d'être plus près des bassins de consommation. Qui en fait, plus la raréfaction du foncier et des opérations, ils ont poussé en fait à aller ailleurs. Donc on sait que l'Orléanais par exemple se développe énormément, mais aussi les axes Rouen-Le Havre, mais aussi côté Atlantique de Nantes à Bordeaux et à Agen, qui deviennent vraiment des vrais nouveaux territoires. Pour pouvoir répondre à la demande et alimenter le plus rapidement possible les consommateurs qui ont commandé indifféremment par Internet ou qui vont en boutique ou qui... Ça devient quand même...
C'est courant.
Ça devient courant et ça entraîne des nouveaux besoins territoriaux et aussi sur des secteurs qui sont moins tendus et donc moins chers et qui permettent... de se développer, qui permet de développer d'avoir des opérations plus
rentables,
avec
du
moins
coup,
de pression.
Ouais. Du coup, tout à l'heure, vous parliez donc de ce fameux cercle vicieux. L'inflation, il y a aussi la guerre, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a eu les confinements, ça retarde les coûts de construction. Il y a aussi les nouvelles mesures, on ne peut plus construire. Enfin, quelles sont du coup les problématiques actuelles des utilisateurs de plateformes logistiques?
Alors, elles sont liées, ils n'ont pas de chance en ce moment, les pauvres, parce qu'ils ont quand même les nouveaux modes de consommation, on le dit, on le redit, voilà, mais c'est quand même assez récent, ça va en s'accentuant, ils sont un petit peu dans un brouillard, ils ont avant tout besoin d'être accompagnés, et il y a deux freins, l'immobilier a un cycle de production long. Donc, quand une entreprise modifie sa stratégie de distribution, il faut qu'elle attende que l'immobilier de ses rêves, le local de ses rêves, soit construit, ce qui n'est pas évident. Ils ont besoin d'être accompagnés dans leur montée en charge, en plus, ils modifient leur stratégie et ils se développent. Donc, il faut que les entrepôts, que la logistique de manière générale, puissent accompagner ça. Alors, le produit en lui-même, déjà, change, outre les besoins environnementaux, les machins, etc. Mais c'est surtout la façon de s'en servir aussi qui est modifiée. C'est-à-dire que des simples endroits de livraison doivent devenir des endroits de préparation de commandes. Il faut pouvoir... il y a beaucoup de digitalité qu'il n'y avait pas avant pour accompagner tout ça. Il faut que tout ça soit réactif. Et en plus, je dirais que les utilisateurs, ils ont... Ça, c'est pas nouveau, mais ça se cristallise un petit peu. C'est les baux. Les investisseurs recherchent des baux de 9 ans. 9 ans, aujourd'hui, c'est une éternité pour les entreprises. C'est une éternité pour leur stratégie. C'est une éternité pour leur montée en charge. Et donc, est-ce qu'ils doivent prendre en location des grands espaces? Mais du coup, ils dépensent trop alors qu'ils n'en ont pas besoin. Ou sinon, c'est trop petit, ils sont obligés de déménager et ils sont contraints par les dates des baux. Voilà, je pense que ça, c'est aussi... Il y a une adaptation des produits qui est permanente. Mais il y a aussi, un souci, je pense, juridique. La saisonnalité aussi, qui touche énormément d'utilisateurs, n'est pas facilement prise en compte. Il y a vraiment une élasticité dans les besoins physiques qui peut être colossale, pratiquement d'un mois à l'autre.
Voilà. Oui,
il faut aussi répondre à cette demande-là.
Oui, ça ne s'inscrit pas dans le long terme, en fait. C'est compliqué à prévoir.
C'est ça, c'est compliqué à prévoir. Et la structure des baux en France, le bail commercial... n'aide pas pour accompagner ces demandes-là.
Et puis, il y a aussi une question que je me pose. Bon, on parle de l'apogée du e-commerce, mais là, avec ce qui se passe à l'international, il y a aussi un retour aux petits commerçants, au Made in France. Et du coup, est-ce que ça ne va pas aussi impacter l'e-commerce et du coup, par la même occasion, indirectement impacter la logistique aussi? Enfin,
Alors,
des questions à se poser.
Tout à fait. Et quand on parle aussi de la réindustrialisation de la France, c'est pas seulement la logistique, c'est les locaux industriels de manière générale. Je pense qu'il va y avoir des aménagements de territoire, parce qu'il y a aussi tout le sujet des infrastructures qui est important.
C'est vrai, oui.
Et on va pas construire une route pour desservir trois bâtiments. Donc, il y a la question... Et puis la loi climat en plus nous demande d'être sobre pour pouvoir donc éviter de construire à tout va. Donc il va peut-être y avoir une réutilisation, une utilisation plus intelligente de zones d'activité existantes qui ont
friche,
plus ou moins périclité.
Oui.
Voilà, il y en a là, c'est pas ce
il y en a beaucoup, ouais. Mais ça coûte plus cher en revanche.
Oui,
de les réhabiliter.
Oui, ça coûte plus cher. Alors, ça coûte plus cher que quoi? J'en sais rien, parce qu'avec l'explosion des coûts de construction
c'est
aussi,
vrai.
Est-ce qu'on va pas...
L'un dans l'autre...
Est-ce qu'on va pas, l'un dans l'autre, se tourner vers une réadaptation, une rénovation de ces locaux-là?
Alors là, il y a
le décret
tertiaire
qui va aussi pousser les coûts, mais on n'aura pas le choix. Et aussi, parce que contre l'augmentation des loyers, tous les acteurs ne vont pas pouvoir absorber une augmentation des loyers pour des locaux neufs. Donc je pense qu'il va y avoir un report aussi sur les locaux de seconde main à l'investissement et à la location.
Affaire à suivre donc pour la logistique et ce qui en découle. Merci, l'émission touche à sa fin. Hein. Merci en tout cas à nos invités. Merci Christophe Chauvard, à distance, directeur général de P3 Logistique Park France. Merci Catherine Dargent, fondatrice et PDG du groupe Daxter. Merci à vous Audrey Jourdain, rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré, pour avoir préparé cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro du Mag au Carré.
Le Mag au Carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.